Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis paroissiens présents dans cette église, chers auditeurs de Radio Maria, la fête de l'ascension du Seigneur Jésus est, avouons-le, difficile à expliquer pour un grand nombre de nos contemporains. Ainsi, Jésus ressuscité serait passé, sous une forme corporelle, de ce monde d'ici-bas vers le ciel. Mais alors, son corps ne serait-il pas observable dans un endroit identifiable, quelque part dans le système solaire, dans notre galaxie, ou plus éloigné encore, dans un recoin du cosmos? Admettons-le, ce point de la doctrine catholique semble aux hommes d'aujourd'hui quelque chose de désespérément pré-scientifique et mythologique. Or, nous le croyons vraiment, parce que c'est vrai, 40 jours après sa résurrection, le Seigneur Jésus est monté au ciel. Chers frères et sœurs, la clé pour comprendre la signification de cet événement, de cette fête, c'est de reprendre ensemble le sens de l'expression juive « le ciel et la terre ». Quand nous pensons à cette expression, en général, nous sommes des Grecs, si je puis dire, dans notre manière de penser. C'est-à-dire que nous avons tendance à mettre en place, à la manière des anciens philosophes grecs d'avant le Christ, une distinction assez marquée entre d'un côté le monde matériel, la terre, et de l'autre le domaine spirituel, le monde de Dieu. Entre d'un côté le royaume de l'apparence et de l'autre le domaine de la vraie réalité. Entre d'un côté l'aspect éphémère de notre terre et de l'autre, l'éternité du ciel. Et nous pourrions avoir tendance à penser notre salut comme une sorte d'évasion de ce monde-ci, cette vallée de larmes, comme nous le chantons dans le Salve Regina, comme un état désincarné, appelé ciel. Le problème, c'est que cette vision des choses a beaucoup plus à voir avec les philosophes païens antiques qu'avec la Bible. La pensée biblique, en effet, n'est pas aussi dualiste que cela. La parole de Dieu ne coupe pas le réel en deux parties distinctes qui seraient la terre d'un côté et le ciel de l'autre. Elle parle certes du ciel et de la terre, mais elle nous appelle à contempler entre ces deux domaines une interaction très intime et vivante comme deux champs de force agissant dans une unique réalité. Le ciel présence par excellence de Dieu et des anges qui lui sont fidèles, touche la terre, rejoint la terre et appelle à lui la terre. Et quand je dis la terre, je veux dire le lieu propre aux humains, aux animaux, aux plantes et au monde minéral. Le salut, le fait d'être sauvé pour l'éternité, par conséquent, c'est la réunion des cieux et de la terre, afin que Dieu puisse régner de manière aussi grande et vraie ici-bas sur terre qu'il le fait au ciel. La prière que Jésus nous a enseignée, qui est constamment sur nos lèvres de chrétiens, le Notre Père, est typiquement juive à cet égard. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas là une prière qui nous demande d'échapper à la terre, mais plutôt qui appelle à une profonde communion entre ciel et terre, entre Dieu et nous, une communion que Jésus a initiée dans le mystère de son incarnation, Dieu fait homme. Et les premiers chrétiens, d'ailleurs, ont vu la résurrection de Jésus d'entre les morts comme le commencement de ce processus par lequel la terre et le ciel étaient désormais réconciliés. Ils ont reconnu le Christ ressuscité comme le roi du ciel, le roi des nations, celui qui apporterait la justice du ciel à notre monde. Et voilà pourquoi des hommes comme Pierre, Paul, Thomas, André, et après eux les apôtres de tous les temps, et vous aussi, je l'espère, sont allés aux extrémités de la terre pour proclamer cette nouvelle situation bien réelle qui concerne et le ciel et la terre. Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Vous vous rappelez sans doute ces paroles de Jésus juste avant l'ascension dans l'évangile de Matthieu. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Or, cette extraordinaire nouveauté qui a commencé à la résurrection du Seigneur, elle est maintenant prête à se répandre et à inonder le monde. Mais comment cela ? Eh bien, toutes les lectures d'aujourd'hui nous le montrent. Cela aura lieu à travers le travail des disciples, à travers l'action de ceux qui connaissent cette bonne nouvelle et qui y croient. C'est pourquoi Jésus, juste avant de monter au ciel, Jésus à qui on demande « Quand vas-tu rétablir la royauté en Israël ?» Jésus répond « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, quand vas-tu établir ton royaume ? Et Jésus répond « Vous le ferez. » Voyez donc, chers amis, comment l'ascension et la Pentecôte que nous fêterons dans 10 jours sont très liées. À l'ascension, c'est une réalité de la terre. Jésus, Dieu le Fils, uni à son humanité ressuscité, qui rejoint la sphère céleste et se trouve en Dieu. Et à la Pentecôte, quelque chose du ciel, le Saint-Esprit, se répand sur la terre. Jésus, qui dans son corps sur la terre avait enseigné, guéri, pardonné, Jésus maintenant enseigne, guérit, pardonne par son corps mystique qu'est l'Église, remplie par l'Esprit-Saint à travers les âges. L'Église, corps du Christ sur la terre, est ce lieu privilégié qui rend possible cette rencontre entre Dieu et les hommes. Notre foi catholique, chers amis, est par excellence la célébration de la rencontre entre Dieu et l'homme, de la rencontre entre le ciel et la terre. Que ce soit dans l'art chrétien, dans l'architecture de nos églises, et nous en avons une si belle ici, dans les œuvres aussi corporelles et spirituelles de miséricorde, dans la vie des saints, et d'une manière éminente, dans la liturgie, en tout cela nous constatons cette formidable communion entre la terre et le ciel. Pensez par exemple à ce moment de la messe, juste avant le chant du Sanctus, quand le prêtre parle des anges et nous emporte dans la louange de la cour céleste, en disant « À leur hymne d'allégresse, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, Saint, Saint le Seigneur. » L'ascension de Jésus, chers amis, n'a donc pas grand-chose à voir avec un voyage dans la stratosphère, ni avec un déplacement géographique du corps de Jésus à un autre endroit, quelque part dans notre univers. L'ascension, c'est le déplacement de Jésus, non pas à un autre endroit, mais dans une autre dimension. L'ascension est un passage d'un certain type de présence du Christ parmi ses disciples, présence physique, à une présence plus profonde qui nous est totalement communiquée par le grand don de l'Esprit-Saint que nous revivrons dans quelques jours à la Pentecôte. Le corps physique de Jésus est bien sûr dans un lieu, ce lieu qui est Dieu lui-même. Il est présent aussi dans nos tabernacles, il se rend présent physiquement dans le mystère de l'Eucharistie, mais le Seigneur Jésus est présent à nous par le Saint-Esprit qu'il nous communique également. Et voilà pourquoi les anges, habitants du ciel, exhortent les disciples juste après le baptême de Jésus. On l'a entendu à l'instant. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Ce qu'ils nous disent en fait, c'est « Allez, maintenant c'est à vous, mettez-vous au travail. » Sous l'influence, sous l'inspiration de l'Esprit de Jésus qui a réconcilié le ciel et la terre, faites maintenant tout ce que vous pouvez pour favoriser à votre tour le mariage du ciel et de la terre. Et vous y arriverez à une condition, si vous collaborez avec les apôtres d'aujourd'hui. Vous y arriverez si vous vous impliquez vous aussi dans ce corps mystique de l'Église, le corps du Christ sur la terre, en accueillant cette liste de dons surnaturels que Jésus nous a acquis, pourrait-on dire, et qu'il répand dans son Église par son Esprit-Saint, cette liste que la deuxième lecture a évoquée, les apôtres, leurs successeurs, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs, les enseignants, etc. Vous y parviendrez, nous dit Jésus, en devenant les apôtres d'aujourd'hui, en donnant votre vie, vous aussi, en union à la mission de toute l'Église qui est mon corps sur la terre. Seigneur Jésus, ça y est, peut-être que nous comprenons un petit peu mieux maintenant. Aujourd'hui, tu es au ciel, tu es toujours présent à chacun de nous. Ton royaume d'amour et de paix, c'est maintenant à nous de le diffuser et de le bâtir grâce à ton Esprit-Saint. Tu nous l'enverras, cet Esprit-Saint, dans une dizaine de jours, à la Pentecôte. Envoie à profusion sur nous ton Esprit-Saint, sur toute ton Église. Comble-nous des charismes qui nous permettront d'être les témoins de ta résurrection, les témoins de ton amour dans le monde. Amen.